le docteur Santa Claus. C'était la veille du jour de l'an. Il neigeait. Il tombait une de ces neiges à gros flocons, calme, reposé, douce, tranquille, descendant comme un pardon des infinis d'opale pour effacer chaque souillure, chaque tache sombre de la nature en cette fin d'année qui s'en allait. Je n'avais vu cette neige que dans les tableaux jusque-là. Et comme on parlait mort pour les porter au tombeau, l'année mourante se purifiait donc dans ce virginal linceul. Une neige à gros flocons de cristal, exprès pour le père Nicolas, allait-il s'en donner? Mais on frappe à ma porte. Qui donc si discrètement? Vraiment, peut-il y avoir encore des pleurs dans quelques foyers, la souffrance quelque part, en ce joyeux soir? Une pauvre femme entra, une vieille grand-mère de 75 ans, également couronnée de neige et de cheveux blancs, qui, tout de suite, s'affaissa sur une chaise, la gorge oppressée et haletante. Elle retenait encore dans ses cils des larmes congelées en route. Elle était descendue à pied à travers les champs par un chemin de raccourci, sous les pommiers et les grands érables morts. Il n'y avait que pour ses enfants que l'on pouvait à son âge se décider à marcher si loin. Et maintenant, gênée, elle n'osait plus m'avancer le but de son voyage. Mais comme elle savait bien que j'avais longtemps soigné son mari, son fils, sans jamais rien recevoir en échange, et voilà qu'elle revenait encore, mais pour son petit-fils cette fois. Mais pour calmer un petit-fils souffrant, à quelle rebuffade ne s'exposerait-on pas? Ah oui, mais parle donc, vieille grand-mère. Toi qui hésites, qui prends des détours pour me préparer à ce que tu vas me demander, parle donc. Je sais bien que tu es pauvre, que tu es brave, honnête, et que surtout tu aimes bien ton petit-fils. C'est d'ailleurs à ton adresse que rien dans mes comptes. Et c'est moi qui ai honte de voir une misérable grand-mère si dévouée, si douce et calme, si vieille, si pleine de cœur, m'aborder avec défiance, comme quelqu'un qui n'en aurait pas de cœur, lui. C'est ton petit-fils qui est malade? Oh oui, bien malade. Tout à coup, à propos de rien. Il était cependant allé à l'école, comme à l'habitude. Mais au retour, oh, une fièvre, des rêves, en sursaut, des appels déchirants. Peut-être a-t-il pris froid, avec ses vieux habits trop courts. Oh, ils étaient pauvres. Alors, malgré la neige et la nuit, elle était venue me trouver, me demander si je ne pourrais pas le guérir, ce cher enfant. Quelques poudres seulement, car il ne devait pas être nécessaire de le voir. Oh, elle soupçonnait encore une raison à sa fièvre subite. À la Noël, le père Nicolas avait apporté un arbre chargé de beaux cadeaux à ses petits compagnons de classe anglaise. Ceux-ci lui avaient raconté ça. Ils avaient apporté leurs jouets à l'école, et depuis, ils n'avaient rêvé qu'à cela chaque nuit, ce pauvre enfant. Mais pourquoi qu'il ne vient jamais ici, le vieux Nicolas? Me demande-t-il toujours, tristement, quand bien même nous serions pauvres. Tu n'es pas méchante, toi, grand-mère, ni moi non plus. Dis, est-ce que je suis méchant? Et tous ces désirs, ces imaginations d'enfant, ces rêves éveillés, lui étaient revenus ce soir dans son cauchemar de rêve et de fièvre. Au bord du bois, tout près, elle était allée voir et couper un sapineau dans les rameaux duquel elle avait déposé des pommes et des glands mûrs. Mais les pommes et les glands mûrs, ils connaissaient trop bien ça, n'est-ce pas? Et sa fièvre avait continué. Si vous vouliez m'en donner quelques poudres blanches, oh, ce n'est pas nécessaire de le voir, je pense. Ce n'est pas nécessaire. Je suppose, me répétait-elle un jour sur un ton de doux et touchante angoisse. Oh, vieille grand-mère, ce n'est pas nécessaire, dis-tu. Mais comme tu désirais que j'y aille pourtant, mais ça te coûte de me le demander, dans la crainte d'un refus, parce que tu n'as rien, rien à m'offrir pour me payer ma course, et qu'il faut être grand-mère comme toi pour se mettre en chemin dans cette neige-là par le seul dévouement. Puisque vous êtes assez bon, mettez-moi, s'il vous plaît, quelques-unes de ces poudres blanches, semblables à celles que vous avez données l'autre jour au petit Louison, le gars du voisin. Elles n'étaient pas mauvaises à avaler, celles-là. Car si elle allait être obligée de prendre son petit-fils de force, de le gronder, de lui tenir les mains. Oh, jamais, jamais, elle ne pourrait s'y résoudre. Oh, bon Dieu, non, jamais. Je te comprends bien, vieille grand-mère. Si tu savais comme je te comprends bien, rien qu'à l'inoubliable souvenir qui me revient, toujours, tout de suite, dans mon esprit, quand ce sujet survient, oh, je comprends. Et si j'allais le voir, votre petit-fils, lui faire moi-même prendre ses pilules, et même en même temps, je n'avais pas de réponse à attendre. Son regard de bonheur s'y visait seul. Je donnais donc l'ordre d'atteler. Mais en attendant, je m'en vais en secret, détacher doucement de l'arbre de Noël de mes mioches déjà installées dans un coin de salle, pour le lendemain, quelques jouets, une bonbonnière, et parmi les autres joujoux de l'an dernier, Musiquette, polichinelle, chevaux mécaniques, arche de Noé. Maintenant, entassé avec dédain dans une malle, je prends les meilleurs, les moins détériorés, dont je fais tout un paquet. Je n'avais jamais vu le père Nicolas, le pauvre petit-fils. Eh bien, il verrait cette année ce père Nicolas. Et voilà que je me mets en route avec la vieille grand-mère à mon côté. Il neigeait toujours. Ce fut vite atteint. La maisonnette tranquille, qui, adossée aux pans de roc sous les arbres, abritait les cauchemars de l'enfant pris de fièvre. Alors, je tire de ma trousse quelques mèches blanches de ouate boratée que je roule dans mes moustaches. Je prends les robes de buffle de la berline, mon paquet de jouets d'hiver, et enveloppé dans mon immense pardessus de chat sauvage, le col relevé au-dessus de la tête, tout constellé de flocons de neige, c'est bien un irréprochable et parfait Santa Claus que la bonne vieille mère, ravie et souriante de chaque ride, conduit à présent devant elle vers son gîte de misère. En la voyant, il se dressa sur son lit, le pauvre enfant, avec une expression soudaine de fille si étrange, oh, si étrange et si subitement heureuse. Était-ce réellement le vieux Nicolas qui venait le visiter, celui-là même qu'il avait tant souhaité, qu'il avait tant désiré un jour? Alors ils n'étaient donc plus pauvres alors? Non, cela ne pouvait pas être vrai. Ces cadeaux, ces jouets peinturlurés devaient être qu'imaginaires. Et il tenait son regard en fixant sur chacun, sur la vieille grand-mère, comme pour qu'elle se dépêchât de lui dire, elle. C'est peut-être qu'il rêvait encore, simplement, que rien n'existait, en réalité, ni du père Nicolas, ni des jouets, et que, mon Dieu, tout cela disparaîtrait dans un banal réveil brutal qu'il ferait tout à l'heure et qui ferait évanouir toutes ces visions bénies. Oui, pourquoi ne lui disait-elle donc pas son pauvre petit, à la vieille mère, qu'il paraissait interrogée, elle qui devait le savoir. Son regard de doute se portait sans cesse sur elle, avec une physionomie suppliante qui faisait mal à voir. Alors, avec une grosse voix douce et sur un ton attendrissant, que les enfants doivent attribuer à Santa Claus, je me mis à lui parler en caresse, à lui interroger, à le questionner tendrement. Ciel, c'était lui, c'était bien lui. Oh, le pauvre petit n'en doutait plus maintenant. Je le vis bien à l'éclair de ravissement. qui montra ses prunelles brûlantes de fièvre. Mais Santa Claus l'examina longuement, prit d'abord sa température, lui fit avaler sans sourciller toutes les poudres et les potions mauvaises, et ensuite il disposa les cadeaux dans les branches du sapinot vert, tout à l'heure si triste seulement, avec ses pommes et ses glands. Puis il s'en retourna. Et le lendemain, la vilaine poussée de fièvre avait disparu tout entière. Et le petit-fils, traînant, en chantant la tue-tête, ses chevaux à roulettes, dans le foyer joyeux, logis, devant la grand-mère, qui souriait, qui souriait.